Alors, on va commencer la paracha des Mishpatim avec une petite histoire. Il y avait dans une ville un pont, un grand pont. Et donc, sur ce pont, il y avait des milliers de voitures qui passaient par jour. Un jour, il y a un petit krach qui s'est créé sur le pont. Et malheureusement, beaucoup de voitures qui avaient l'habitude de passer chaque jour, il y a des voitures qui n'ont pas vu ce trou. Et chaque jour, de jour en jour, il y avait des voitures qui tombaient dans les trous. Mais en bas du pont, qu'est-ce qu'il y avait? Un grand fleuve, de l'eau. Alors chaque voiture qui passait, des voitures qui passaient, le chauffeur se trouvait dans l'eau. Là, la ville se ramassait et se posait une question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pont? Et comme ils ont fait un conseil, ils ont trouvé la solution. C'est quoi la solution? Construire un hôpital juste à côté du pont. Comme ça, si quelqu'un tombe, il est soigné de suite. Pas besoin d'attendre l'ambulance, le pompier, tout ça. Tout de suite à l'hôpital. À votre avis, c'est un bon conseil, non? Très bon conseil, c'est ça? Alors voilà. La chose normale à faire, ça serait quoi? De prendre et réparer le trou. Comme ça, aucune voiture tombe. Cette histoire-là, c'est exactement le point de vue de la Torah et le point de vue de nation du monde. Comment? Regardez. On attrape quelqu'un volé. Il rentre dans un magasin, il vole. C'est ça? Qu'est-ce qu'ils font dans les pays occidentaux? En Iran, tout ce pays, qu'est-ce qu'ils font? Non? Ils ne le tuent pas. Tu as volé avec la main droite? Tac, on te coupe la droite. Alors le gars, comme il a l'habitude de voler, bon, il commence à pratiquer avec la gauche. Il est en prison, il pratique, jusqu'à qu'il devient gaucher. Il sort. Ils volent encore avec la gauche. Tac, on les coupe la gauche. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'on va l'arrêter, ce gars-là qui est voleur professionnel? Avec la droite, on l'a coupé, il n'a pas arrêté. Avec la gauche, on l'a coupé, il n'a pas arrêté. Est-ce que vous croyez avec le deux mains amputées, il va arrêter? Vous croyez? Pas du tout. Il va aller engager des gens. Il va leur dire 50-50. Je vous fais le plan. Vous allez dans ce magasin, je vous donne les heures et tout, comment rentrer et tout. Tout ce qu'il vous a apporté, 50-50%. Tu vas jamais l'arrêter. Ça veut dire que le système de couper la main, c'est comme construire un hôpital à côté du trou qui est sur le pont. Alors, dans les pays plus modernisés, comme les États-Unis, Canada, des autres pays, on a trouvé un autre système. C'est quoi le système? On rentre quelqu'un en prison. Alors voilà, tu as volé, dépendamment combien tu as volé, ou 24 heures, ou un mois, ou un an, ou 2 ans, ou quelques années. Quelqu'un qui vient maintenant de prendre, il a pris de 9000 personnes de leur pension de vieillesse, tout ça. Peut-être il va passer des 12 ans, peut-être il va passer 2 ans. Mais qu'est-ce que vous croyez va arriver quelqu'un qui rentre en prison? Qu'est-ce qui va lui arriver? Tu rentres là-bas et tu as tout un groupe qui t'attend. Enchanté, comment t'appelles, monsieur tel, monsieur tel? Qu'est-ce que tu as? 2 ans, 5 ans, qu'est-ce que tu as à faire 2 ans? Alors tu commences à raconter ta vie. Un qui raconte, comment tu t'es fait attraper toi? Ah voilà, je suis rentré à cette banque, mais j'étais stupide parce que j'ai oublié d'attacher ce fil-là et ce fil-là. Et l'autre lui dit comme ça. Et là, ils se mettent ensemble, chacun raconte son expérience. Mais qu'est-ce qui va arriver avec le temps? Chacun apprend de la faute de l'autre. Qui veut dire que quand il sort déjà bien entraîné. Ah, moi maintenant je vais faire attention, ça. L'autre il m'a dit ça, je vais faire attention. Le gars, quand il sort un voleur professionnel. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rentré un gars qui est rentré peut-être pour un an ou deux. Il a volé quoi? 1000 dollars ou 2000. Là, il va aller tenter sa chance de voler 20 000 ou 2 millions. Pourquoi? Parce que tu l'as entraîné en prison. La prison, c'est une maison d'entraînement. Tu as un stage enfermé, encadré dans une bâtisse, 2 ans gratuit, nourri, logé. Télévision, tu as du sport, tout ce que tu veux. Ça, c'est l'idée de nation du monde. C'est comme ça qu'on deal avec un voleur. Mais vient la Torah et te dit pas du tout. Vous savez que quelqu'un qui vole, c'est en lui, c'est un caractère. Ça veut dire que c'est malgré lui. C'est malgré lui. Et en plus de ça, nous savons que de voler, ça peut être ton mazal. Tu pénètres dans une astre. De vol. Ça veut dire que quand tu es né, ton mazal dans le ciel s'était volé. Et tu es un voleur. La Gemara raconte, si vous regardez dans le Masechet Shabbat, page 156a, la Gemara raconte qu'il y avait un garçon qui est né et des sorcières non juives qui ont dit à sa mère, ton fils sera voleur. Et le rabbin, quand elle est partie pleurer devant des rabbins, comment mon fils et tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Ils lui ont dit une chose, tu veux que ce garçon ne soit pas voleur? Il faut qu'il surmonte son mazal. Comment? Mets-lui la kippa. Pourquoi? Regardez, quand les goïms rentrent à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le chapeau. Quand nous on rentre à la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? Tu mets la kippa, tu mets le chapeau, tu mets le talit, tu te couvres. Pourquoi tu te couvres? Plus que tu te couvres, plus que tu as la crainte du ciel. Plus que tu te découvres, plus tu enlèves de toi la crainte du ciel. Pour nous, se couvrir, c'est la crainte. Se découvrir, c'est enlever la crainte. Alors là, ils lui ont dit, madame, tu veux que ton fils ne soit pas voleur? Mets-lui la kippa de jeune âge, maintenant. Il est né maintenant, et quel âge il a? Même pas un mois, tu commences à lui mettre la kippa. Elle a tellement fait attention, hein, même quand il dormait et la kippa tombe, elle venait le soir, elle, quand, dans son sommeil, elle lui remettait la kippa. Et Baruch HaShem, il a grandi straight, droit. Pour dire que si quelqu'un est un voleur, ça peut être de nature. Mais si c'est de nature, tu peux dire, ah, je suis né voleur. Ni le tribunal va l'accepter, ça veut dire le Beit Din juif, ni le juge dans le tribunal laïque, ils vont pas l'accepter. C'est pas un argument. Tu es né voleur, va te t'arranger. C'est ça? Si quelqu'un est né dans une as de sang, par exemple, tout celui qui naît quand Mars, il est en domination, il aime du sang. Il peut être assassin. Mais est-ce qu'il peut dire, ah, je suis né dans une as comme ça? Jamais de la vie. Alors c'est à toi à modifier, c'est à toi à changer. Qu'est-ce que tu fais? Va devenir docteur, tu vas avoir du sang toute la journée. Va devenir boucher, va devenir mohel. Est-ce qu'il manque des choses qui ont à voir avec le sang dans le cachère? Ça manque pas de choses. C'est ton mazal, sache comment diriger ton mazal vers le bon côté. Alors si quelqu'un est né voleur, dit la Torah, il faut le redresser. S'il n'est pas capable à se redresser lui-même, la Torah dit alors je vais le redresser. Et le début de la paracha cette semaine, c'est le redressement d'un voleur. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui vole? Voler veut dire prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu voles, ça veut dire que tu n'as pas de respect à Kadosh Baruch Hu en premier. Pourquoi? Parce que si quelqu'un possède quelque chose, c'est à Kadosh Baruch Hu qui lui a donné ça. C'est pour ça que la Torah, dans le 10 commandements, le dernier commandement, c'est quoi? De ne pas convoiter. Si tu convoites, si tu es jaloux de quelqu'un, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu pourquoi tu lui as donné. Est-ce que maintenant tu poses des questions à Kadosh Baruch Hu pourquoi tu lui as donné? Si Kadosh Baruch Hu lui a donné, ça veut dire qu'il mérite. Il a un certain mérite pour que Kadosh Baruch Hu lui donne. Et toi tu es jaloux. De quoi tu es jaloux à Kadosh Baruch Hu lui donne? Si Kadosh Baruch Hu veut te donner, il va te le donner. C'est ça? Alors, si quelqu'un est un voleur, la Torah dit il faut le dresser. Mais comment on va le dresser? On va lui couper la main? Ça va pas aider. On va lui rentrer en prison? Ça va pas aider. On va lui parler gentiment? Ça ne va pas aider. C'est dans son caractère. Voilà la Torah au début de la paracha cette semaine trouve la solution. C'est quoi la solution? Quelqu'un qui vole, on l'attrape. Si on l'attrape. On l'a attrapé. Première chance. Rends ce que tu as volé. Est-ce que tu as volé, tu l'as? Rends-le. Il y aura des mesures de sanction. Dépendamment de quoi tu voles, comme ça sera la sanction. Par exemple, tu as volé un taureau. Tu as volé un taureau? Où est-ce que ce taureau? Tu l'as pas? Tu l'as tué? Tu l'as vendu? Tu vas payer maintenant 4 fois ce taureau. 4 taureaux tu vas payer. Un taureau c'est pas cheap. C'est entre 500 et 1000 dollars le taureau. Va maintenant payer 4 fois le prix du taureau. Peut-être ça va t'arrêter. Tu vas penser la prochaine fois, tu sais, quand on touche quelqu'un dans la poche, ça fait mal au cœur. Rabbi Yochanan, un jour est venu. Et tout le cours qui passait, les élèves, ils voyaient qu'il est troublé. Il n'est pas dans son aiguisé, il n'est pas dans... Il dit, qu'est-ce qui se passe, Rav? Pourquoi? Il dit, j'ai perdu aujourd'hui mon sac, ma bourse d'argent. Et tout le cours, je pensais sur cet argent. La poche est connectée au cœur. Quand on te prend quelque chose de la poche, ça fait mal au cœur. Quand tu reçois un ticket d'intervention, c'est ça? Ah, j'ai brûlé les stops, ah, j'ai passé en rouge, il m'a attrapé, tout ça. Toute la journée, tu penses que à ça. Tu n'arrives pas à... Même si tu as de l'argent de payer, mais ça fait mal. Ça fait mal de recevoir un ticket de contravention. Alors la Torah dit, on va toucher la poche du voleur. Comment? Tu as volé un taureau, tu payes 4 fois. Mais si tu as volé une brebis, combien tu as volé, pardon, tu as volé un taureau, tu fais 5 fois. Tu as volé une brebis, combien tu payes? 4. Pourquoi 4? Pourquoi 4?
S'il n'a pas.
Hein? S'il n'a pas, on va voir bientôt s'il n'a pas. On va voir. Alors tu payes 4 brebis. Le taureau, tu le payes 5. Pourquoi? Voilà. Quand tu prends un taureau, tu l'attaches avec une corde et tu marches avec dans la rue. Est-ce que quelqu'un qui te voit marcher dans la rue, est-ce qu'il sait que ce taureau est volé? Il ne peut pas savoir.
C'est 4 le taureau.
C'est ça?
4. Non.
4. Le taureau, c'est 5.
C'est 5.
Pourquoi? Quand tu marches avec le taureau dans la rue, personne ne peut savoir que tu l'as volé. Il voit un homme marcher avec son taureau. Mais quand tu voles une brebis, qu'est-ce que tu fais? Tu la ramasses sur tes épaules et tu commences à courir. Quand tu cours, les gens te voient. Il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est un voleur celui-là. Mais tu as honte quand les gens te voient. Et quand tu as honte, la honte enlève un peu la punition. Alors, 1/5 de la punition est enlevée. Tu vas payer 4 fois la brebis au lieu de 5. Quand tu rentres à Canadian Tire, c'est ça? Et tu sors avec un tire sous tes épaules et tu commences à courir, c'est ça? Tu vas payer rien que 4 roues. Mais quand tu rentres et tu voles un boulon, une vis, ou n'importe quoi qui se rentre dans la poche et tu sors, si on t'attrape, selon la Torah, tu aurais payé 5 fois le prix. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas honte, tu es sorti, c'était dans ta poche, personne ne t'a vu, personne ne savait que tu volais. Mais donc, qu'est-ce qui arrive? Le gars, il dit, j'ai pas. Je n'ai pas à payer. Qu'est-ce qu'on lui fait? Tu n'as pas à payer, toi. Alors, tant pis. On ne peut pas te toucher la poche maintenant. On ne peut pas te faire mal au cœur parce qu'on n'a pas la poche. Alors, il faut rentrer dans tes veines. Comment tu rentres dans le vein du gars? Tu vas le faire un tune-up au complet. Comment tu fais ça? On va te prendre, on va te vendre comme esclave. Tu prends le gars, tu l'emmènes au Beddin, ils vont l'évaluer. Comment un gars comme ça, est-ce qu'il est costaud ou est-ce qu'il est comme ça, maigre, un petit mec, il veut pas. On va l'évaluer. Combien un esclave comme ça vaut? Maintenant, on va le mettre sur le marché des esclaves et on va chercher un acheteur. Qui c'est qui veut acheter un esclave? Qui c'est qui veut acheter un esclave? On va annoncer comme ça pour un mois. Et voilà un gars qui vient intéressé. Moi, je cherche un esclave. Bon, combien tu es prêt à payer? Tu dis pour celui-là, $500. Il me dit non, lui, c'est $5000. Donc, ils vont négocier, ils vont le vendre. Attention, maintenant il est vendu 6 ans. La Torah dit, Sheshanim Yavod, il travaillera 6 ans. Ou Bashevit, Yetzela Khofshi. C'est vrai qu'à la 7e année, il va sortir gratuit. Hé! Mais qu'est-ce que tu parles maintenant? Tu me parles d'un gars qui a volé $1000. Ok, il n'a pas à payer, tu le vends 6 ans. Mais si le gars, il a volé 10 000 $, 100 000 $, il n'a pas à payer, qu'est-ce que tu fais avec? Même chose. Pas de 6 ans fois 10, 6 ans pour tout le monde. Mais c'est pas fair. C'est pas juste. Lui, il a volé 1000, tu l'as vendu pour 6 ans. Lui, il a volé 100 000, tu l'as vendu pour 6 ans. Où la justice? C'est pas une question de vente. C'est une question de régler le boulon qu'il a dans le cerveau, ce gars. Et ça prend 6 ans pour n'importe qui. Tu peux être le plus stupide. Tu peux être le plus sophistiqué. En 6 ans, on va t'arranger le cerveau. Le boulon qui vont bien, pas bien dans ton cerveau, on va le changer. Quelques fuses et tu vas être bien, un bon juif. Comment? Tu vas servir chez quelqu'un 6 ans. Tu vas servir chez quelqu'un 6 ans. Tu travailles. Maintenant, d'abord, on va t'humilier un peu. C'est quoi l'humiliation? C'est quoi ton humiliation? Tu n'as pas, on t'enlève tout le mitzvot d'un homme. Tu n'es plus un homme. Tu deviens une femme. Tu as le mitzvot d'une femme. Tu ne mets pas les tefillim le matin. Même si tu dis à ton patron, écoute, moi je vais faire tchouva, moi je vais faire tefillim chaque jour. Non! Pas de tefillim pour toi. Même si tu veux, tu ne poses pas de tefillim. Ça? Ok, laisse-moi le talit, tzitzit, laisse-moi tzitzit. Non, tu es une femme, tu n'as pas de tzitzit, toi. Shabbat, oui, Shabbat, tu es obligé de faire. Même la femme fait Shabbat. C'est ça? Soukot arrive, tu lui dis, mais je veux s'asseoir dans la souka, l'ichéba souka. Non, les femmes sont exemptées de la souka, il n'y a pas de souka pour toi. Donne-moi le loulav, je prends le loulav. Non, il n'y a pas de loulav pour toi. Tout ce qu'il veut faire, on lui dit, tu es une femme, tu n'es pas un homme. On t'a pris tout le mitzvot. Pourquoi? Tu es un esclave. Mais une chose. tu auras un respect total. Qui veut dire, ton maître n'a pas le droit de t'asservir qu'est-ce qu'il veut, comme il veut. Qui veut dire, Rachid donne un exemple. Le maître n'a pas le droit de le dire à son esclave. Écoute, j'ai soif. Va me chercher un verre d'eau. Et en vérité, Rachid dit, il n'a pas soif. Il le fait rien que pour le faire travailler. Parce qu'il a vu qu'il s'assoit sur une chaise. Ah, il ne fait rien. Ok, je vais lui faire travailler. Va me chercher un verre d'eau. En vérité, tu n'as pas besoin de verre, tu n'as pas soif. Rachid dit, fais attention. Ve'areta meloecha. Il faut que tu crains Hachem. Tu n'as pas le droit de le faire travailler quelque chose que tu n'as pas besoin. Si tu as besoin de quelque chose, il a été vendu pour ça. Tu travailles pour toi. Mais si tu n'as pas besoin, tu fais un péché, tu n'as pas droit. Alors, on lui a enlevé le mitzvot comme un homme, mais on lui donne le respect au total. Ça veut dire qu'il faut le respecter. La Gemara explique, tout celui qui a acheté un esclave, il vient de s'acheter un maître. Qui veut dire quoi? La Gemara pose une question. C'est écrit dans la Torah, « Vetov lo imach ». Il sera bien comme toi. L'esclave que tu viens d'acheter, il sera bien comme toi. Qui veut dire? Tu as un oreiller à la maison. Un seul oreiller. Qui c'est qui dort sur l'oreiller? Le patron ou l'esclave? Si le patron il dort sur l'oreiller, il ne donne pas à l'esclave, il est mieux que l'esclave. Qu'est-ce que la Torah dit? Vetov lo imach. Il sera bien comme toi. Si il lui dit, tu sais quoi? Ni moi, ni toi. Ça, c'est la qualité de ce dôme. Ni moi, ni toi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse le maître? Il doit prendre l'oreiller, donner à l'esclave, va dormir sur un oreiller, lui danse sur un oreiller. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lui c'est le maître, lui c'est l'esclave, il donne l'oreiller à l'esclave, oui. La Gemara nous dit une règle. Kola kone eved, kone adon le atzmo. Tu as acheté un esclave hébreu, tu viens de t'acheter un maître. Tu dois le respecter plus que toi. C'est pas parce qu'il est voleur. Le roi Salomon il dit, il faut jamais dire, ah lui c'est un voleur. S'il est voleur parce qu'il a faim, s'il est voleur parce qu'il a un problème, ici dans la tête, il faut lui régler, c'est pas à cause qu'il a un problème tu vas le humilier, c'est pas à cause qu'il a un problème qu'il faut le maltraiter. La Torah dit, il faut le dresser. On va pas lui couper la main, on va pas lui rentrer en prison, mais il faut bien le dresser. Comment je le dresse? Je lui montre qu'en quoi il a du respect de la Torah. La Torah lui donne du respect. Il y a une histoire que une fille fait tchouva, mais fort. Tu vas très fort. Les parents, le frère, les sœurs ne sont pas religieux. Elle arrive à la maison. Ah maman, ça on peut pas, ça c'est caché, je peux pas rentrer ça à la maison. Ah maman, le kilim n'était pas en mikvé. Maman, Shabbat, il les a rendus fous toute la famille. Mais ça valait la peine. La mère commence à faire tchouva. Le père suit. Les frères, les sœurs, tout l'enfant tchouva. Oh Hachem. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, cette fille a fréquenté des mauvaises filles. Elle fait un demi-tour en arrière. Elle retourne comme elle était auparavant. Maintenant, elle a fait tchouva, toute la famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et elle, Choser Bich, est là. Elle retourne avec une question, pas avec une tchouva. Les parents étaient malheureux, parce que tout le monde s'en fait tchouva. Ils sont partis voir un rave. C'est vrai, qu'est-ce que le rave leur a dit? Le rave leur a donné un conseil. Chaque fois que cette fille rentre à la maison, si le père est à la maison, si la mère, si les frères, si les soeurs sont à la maison, ils doivent se lever devant elle. Comme tu te lèves devant un rave. Quand tu es rave, un grand rave rentre, tu te lèves. Le rave leur a dit, chaque fois qu'elle rentre à la maison, vous allez vous lever. Pourquoi? Ils sont arrivés à un point que quand le père lui dit, Shabbat! Il dit, qu'est-ce que tu parles? C'est pas, il y a un éther, etc. Il y avait beaucoup de friction. Le rave lui a dit, faites ça. En quelques semaines, vous allez voir le résultat. Donc, les parents, ils n'ont rien compris de ça. Mais ils ont commencé à appliquer. Mais le père, en sortant, il dit au Rav, mais rien qu'explique-nous le sens de cet halakha. Mais qu'est-ce qu'il... Il dit, écoutez, cette fille, elle est votre Rav. C'est elle qui vous a fait retourner Betchouva. Vous lui devez du respect. Montrez-lui un respect et vous allez voir. Ils ont commencé à faire. Chaque fois qu'il est rentré, le père s'est levé dedans. Regarde, pourquoi tu t'élèves? Je ne suis pas ta mère. Pourquoi tu t'élèves? Non, tu es mon rave. Tu m'as fait retourner Bouchouva. Elle rentre dans une autre pièce, sa mère est là-bas, elle s'élève. Pourquoi tu t'élèves? Tu es mon rave, parce que tu m'as fait retourner Bouchouva. Elle rentre, ses frères, ses sœurs, elle ne comprenait rien. Mais elle a eu du respect de ses parents, de son père, de sa mère, de sa sœur, de son frère. Qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de quelques semaines, elle s'est brisée et elle a retourné Betchouva encore. Pourquoi? Quand tu manques du respect à quelqu'un, c'est là que tu l'achètes. C'est là que tu lui donnes l'importance, c'est là que tu l'attires vers toi. La même chose, la Torah dit, l'esclave, un voleur, il ne faut pas lui dire, tu es un voleur. Tu lui dis ça, tu le repousses plus. Les olam, à tout jamais, quand on repousse quelqu'un, il faut le repousser avec la main gauche. Mais quand tu rapproches quelqu'un, approche-le avec la main droite, plus fort. Embrasse-le, enlace-le fort, ramène-le plus vers toi. La Torah dit, un voleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le repousser à cause qu'il est voleur? Non, il a un problème. Il a un problème que lui-même n'arrive pas. Est-ce que vous croyez qu'un voleur est content de voler? La majorité des voleurs, ils le font ça, ou c'est dans leur trait de caractère, ou malgré eux, ou ils sont dans la nécessité. Et ils ne savent pas quoi faire. Regardez, il y a beaucoup d'enfants, quand ils sont petits, ils rentrent dans quelques places, ils volent du chewing-gum, ils volent des piquets. Et après, quand ils grandissent, mais quelle bêtise, pourquoi j'ai pris ce chewing-gum de ce magasin? Est-ce que... Et surtout, ils ont de l'argent. C'est ça? Il y a des gens qui sont aussi malades. Ils ont de l'argent, ils volent rien que pour voler. Mais est-ce qu'il faut humilier ces gens-là? Non, ils ont un problème, il faut le régler. Comment tu règles ce problème? Tu le rentres dans une famille. Et 6 ans, il passera un stage. Ça prend 6 ans. Comment? Le gars-là, tu lui enlèves tout le mitzvot, mais tu lui donnes du respect. Shabbat, écoute, tu ne peux pas manger la dafina et lui donner manger du poulet. Tu dois lui donner la même dafina que tu manges toi. Tu dois lui donner dans le fait à manger. Tu dois le réjouir dans la fête. Tu dois lui donner tout ce qu'il aime, cet esclave. Qu'est-ce qu'il voit lui? Lui qui était voleur, il n'avait pas une vie familiale. Si c'est un voleur, il n'est jamais assis à table avec sa femme et ses enfants. Il n'a jamais fait d'ivraie Torah à table. Et voilà, 6 ans, qu'est-ce qu'il voit? Il est dans une maison où les gens, tout le monde sont autour de la table. Le père, la mère, les enfants. Le père, les enfants, ils font une Dvar Torah. Il écoute Dvar Torah, lui, il est présent, il entend. Tout ça, ça va l'influencer. Dès le Minchat Rinour, il dit, si tu vas prendre le plus grand rachat du monde, le plus grand mécréant du monde, et tu vas lui demander, est-ce que tu es capable de mettre le téfilim chaque jour? Mais il va te dire, je ne crois pas dans la mitzvah du téfilim. Il dit, qu'est-ce que ça te regarde? Mets le téfilim 2 minutes par jour, 10 chemins, enlève le téfilim. Dis le Minchat Rinour, tu vas voir au bout de quelques semaines, même si ce rachat ne croit pas dans la mitzvah du téfilim, le fait de pratiquer la mitzvah, il va retourner betchouva. Prends un tzadik et dis-lui, tu sais quoi, pour quelques jours, ne pose pas de téfilim. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Le fait qu'il n'applique pas cette mitzvah, il retournera à être rachat. Le mitzvot nous donne le goût de faire tshuva. Quand on voit, quand on applique, quand on fait, c'est ça qui t'approche vers Akadosh Baruch Hu. Quand ce gars, ce Eved, il rentre dans une maison, chaque semaine il voit Shabbat, chaque matin il voit son maître mettre le tefilim, il a envie, il veut faire. Et tu lui expliques, voilà, ça c'est Shabbat, ça c'est tefilim. Il voit que comme toute la famille, ils sont réunis autour de la table, les fêtes, tout le monde sont là, les enfants, les petits-enfants, le père. 6 ans, ces images-là sont imprégnées dans son corps, dans son cerveau. Qu'est-ce qui va arriver? Il va terminer 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu es sûr qu'à la fin de 6 ans, c'est un Yehudi, c'est un Juif, Tchomer, Torah ou Mitzvot, Kala Kevachamura, le plus petite mitzvah à la plus difficile à appliquer. Et c'est ça, qu'est-ce que tu es arrivé à faire? Quand il va sortir à la fin de 6 ans, c'est un Baal Tshuva. Pas besoin de lui couper la main. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as pris son caractère et tu as changé son caractère. Tu lui as montré qu'en quoi de voler, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, tu peux avoir une vie sociale. Tu peux être bien avec tout le monde. Tu peux être bien avec ta famille. Tu vas t'entourer de tes enfants et tout ça. Mon cher Rabbeinu, quand il est arrivé de Har Sinai, vous rappelez, il avait 2 tables de la loi dans la main. Dans 5 tables, dans la première tablette, il y avait 5 commandements. Dans la 12e, il y avait 5 autres. Dans la première, qu'est-ce qu'il y avait? 5 commandements qui ont rapport entre l'homme et son créateur. Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu le ton éternel. Lo ilecha Elohim achrim al panai. Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Lo tissa Hashem Elokecha l'achav. Tu omettras pas le nom d'Hashem en vain. Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Kabel et Tavich avait imecha. Respecter ses parents, c'est respecter Hashem. Et après, sur le deuxième côté, 5 mitzvot, 5 commandements qui ont rapport entre l'homme et son prochain. L'otir tsar, il ne faut pas tuer. L'otir non, il ne faut pas voler. Attention, pas voler là-bas, ça ne veut pas dire voler monétairement. Ça veut dire de ne pas kidnapper. Pourquoi? Parce que l'otirtsar, c'est tuer une âme. L'otignov, c'est de ne pas voler une âme. L'otignov, le vrai de ne pas voler, la vraie mitzvah de ne pas voler, se trouve dans la parasha de Mishpatim. Ça n'a rien à voir avec le l'otignov dans le 10 commandements. Après, il faut pas convoiter, il faut pas mitvar shekertirchak, il faut pas mentir. Ça, ça c'est des mitzvot qui ont rapport entre l'homme et son prochain. Quand mon cher Rabbeinu descend de la montagne, il voit le veau d'or dans le camp d'Am Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Vayashlech et aluchot miyadav. Il a jeté l'état de la loi de ses mains. Mais dans la Torah, c'est écrit, il a jeté l'état de la loi de sa main. Au singulier. Ça veut dire que quoi? Il a jeté une de tablette, pas le deux. Mais nous savons qu'il a jeté le deux. Et on lit, quand on lit dans la Torah, c'est écrit d'une manière, mais on le lit d'une autre. Vayashlech et aluchot, il a jeté l'état de la loi, miyadav, de ses mains, au pluriel. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? J'ai vu dans un livre, il a écrit, quand Moshe est venu, il a vu le veau d'or, il dit, mais comment? Il vient de transgresser le premier côté des tablettes. Lo yelecha Elohim acherim, al panai, tu n'auras pas un autre dieu, il vient de se faire un dieu. Il vient de transgresser le commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis le seul dieu, ton dieu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il prend la tablette de droite qui a rapport entre l'homme et son créateur, il la jette. Miyado! Et il dit, je descends et je donne à Israël rien que la deuxième tablette. L'otirtsakh, l'otignov, l'otanebracha et shaker, l'otachmodresh, tout ça, je vais leur donner. Mais Moshe, il fait un calcul rapide, il dit non, impossible. Si tu n'es pas bien avec Hachem, tu ne peux jamais être bien avec ton prochain. Impossible. Le deux tables doivent aller ensemble. Une tablette avec l'autre. Ils sont donnés deux tablettes, mais ils sont liés une de l'autre. Si tu accomplis pas un côté, tu peux accomplir l'autre. Je vais vous donner un petit exemple. Si tu dis, tu sais quoi, avec Hachem, je vais être bien avec mon prochain. Et après un prochain. Ça, impossible. Impossible. Parce que, l'otirtsakh, qu'est-ce que c'est l'otirtsakh? Qu'est-ce que c'est l'otirtsakh? Si quelqu'un tue quelqu'un, est-ce qu'il n'est pas bien seulement vers la société ou vers Dieu aussi? Qu'est-ce que vous croyez? Le deux! Parce que si tu as tué quelqu'un, qu'est-ce que la Torah dit dans Bereshit? Ki betzelem Elohim bara et Adam. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que chacun de nous a l'image de Dieu en lui. Si quelqu'un tue quelqu'un, il enlève de ce monde, qu'est-ce qu'il a enlevé? Une partie d'Hachem. Tuer quelqu'un, c'est enlever une partie d'Hachem dans le monde. Alors en tuant, c'est pas seulement que tu n'as pas respecté ton ami, tu n'as pas respecté Hachem non plus. Tu n'as pas respecté Hachem. Quand tu respectes pas le Shabbat, bon, alors tu dis, moi le Shabbat avec Hachem, c'est bien. Mais quand tu respectes pas le Shabbat et tu mets la musique fort et tu fumes en public et tout ça, c'est pas seulement envers Hachem que tu as tort. Tu fais du tort aussi à ton prochain. Parce que lui, c'est un chômeur Shabbat. Quel Shabbat, quel plaisir de Shabbat il a quand il voit quelqu'un fumer. Quel plaisir de Shabbat il a quand quelqu'un, il voit quelqu'un prendre la voiture. Il n'a pas de plaisir de Shabbat. Alors tu dis que c'est entre moi et Hachem. Mais entre toi et Hachem, tu es en train de blesser aussi ton prochain. Alors c'est impossible de dire que les deux tablettes sont individuelles. Ça veut dire chacune de son côté. Non, ils sont ensemble. C'est pour ça que mon chef voulait jeter la tablette de droite. Mais à la fin, on lit Miyadav. Il a jeté les deux tablettes parce que c'est impossible. Alors quelqu'un qui est voleur, il n'est pas bien avec Hachem. Il faut lui donner une bonne éducation. Hachem dit, la bonne éducation viendra après 6 ans. Un stage de 6 ans. Maintenant, quand quelqu'un rentre chez lui après 6 ans, Hachem te dit, tu sais que le Tzara, il attend toujours à la porte. Tu fais Tshuva, il est déjà à la porte en train de t'attendre. Tu as fait Tshuva, tu commençais à devenir Shomer Shabbat, tu as fait Tshuva, tu dois commencer à manger kasher. Il va trouver des situations pour te mettre dans le piège. Dès que tu fais Tshuva, c'est... Les gens, ils disent, dès qu'ils font tshuva, ils ont plus de trébuches, plus de tentations qu'avant. Il va te mettre dans une situation, ta mère va te dire, on va aller chez ta tante manger. Mais maman, la tante mange pas kasher. Mais va acheter que tout kasher. Mais maman, ce vaisselle n'était pas au mikvé. Ah oui, ça va, c'est pas grave, c'est des rabanan et tout ça. Et il va te mettre des pièges partout. Le Tzara, il attend que ça. Qu'est-ce que vous croyez, le Tzara, il va lâcher un gars qui était voleur. Il vient de faire tshuva après 6 ans. Ou peut-être avant, mais à la fin des 6 ans, et c'est sûr que c'est un bas, tu vas. Vous croyez qu'il va le lâcher comme ça? No way. Dès qu'il sort, il va dire, mais tu n'as pas de travail, toi. Tu étais esclave 6 ans. Il faut que tu recommences à zéro. Tu as une femme, tu as deux enfants. Comment tu vas recommencer ta vie? Eh, va voler. Tu donnes le maaser maintenant que tu es religieux. Et Bezrat Hashem, petit à petit, tu vas. Il va lui trouver des situations incroyables. Qu'est-ce qu'il dit la Torah au patron? Attention, il ne faut pas le lâcher, le laisser partir. Tout ce que tu as travaillé ne vaut rien. Si quelqu'un va dans un Shabbaton, il est fasciné, il a fait tchouva, le rav était bon, il a rencontré beaucoup d'amis. Mais s'il n'y a pas de follow-up, après le Shabbaton, ça ne vaut rien. Le Sahara, il t'attend en milieu de semaine, il attend que tu reviennes du Shabbaton. Tu étais en Israël, il t'attend à Montréal. Et il va, ok, laisse-le 3 semaines, laisse-le s'éclater, s'amuser, faire tchouva. Dès qu'il revient, je vais l'éclater, moi. S'il n'y a pas de follow-up, ça vaut rien, parce que le Sahara t'attend. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Sahara? Il attend 6 ans. Mais vous savez, plus que tu lui fais attendre, plus qu'il devient grand. Qu'est-ce qu'il fait, le Sahara, maintenant que le gars, il vient de sortir, maintenant, il n'a rien? Alors, va voler, écoute, il lui donne des terims selon la Torah. Chaz Shalom, tout selon la Torah. Tout, tu vas donner maaser et tu vas donner ça. Attends. La Torah déjà a pensé sur ça aussi. On ne va pas laisser un bal, tu vois, quelqu'un fait, tu vois, on te le met des tzara. La Torah dit au patron, quand tu le renvoies de chez toi, il ne faut pas l'envoyer main vide. L'esclave après 6 ans, il faut lui donner de l'argent avec quoi commencer une nouvelle vie. Alors qu'est-ce que tu as, patron? Tu as des vignes. Donne-lui une vigne. Comme ça, il a de raisins. Il a quoi à manger. Il a quoi à vendre. Il a quoi faire un peu de parnassa jusqu'à qu'il se remette sur le pied. Tu as des brebis. Tu as un troupeau. Donne-lui quelques brebis. Il va tondre la laine. Il va le vendre. Il va prendre un peu de lait. Il va manger la chair. Il va manger la viande de ce mouton. De ces moutons que tu vas lui donner. Il va faire un peu de business. Il va se remettre un peu. Tu as des poulets. Donne-lui des poulets. Tout ce que tu as dans lui pour recommencer, ne l'envoie pas même vide. Tu ne peux pas l'envoyer même vide. Il faut l'envoyer avec un bagage pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie. Il ne faut pas laisser entre les mains des Sarah. Ça, c'est la manière que la Torah voit les choses. Ce qui veut dire, on repart. On va réparer les choses. On ne va pas faire un patch-up. C'est quoi un patch-up? Patch-up, ça veut dire tu mets comme ça et tu laisses partir. Non. La Torah veut descendre à la source du problème. Et c'est quoi la source? Un voleur, il faut lui faire mal à la poche, si tu peux. Tu ne peux pas, tu atteins même son caractère, tu vas changer son caractère, c'est ça? Et la Torah va faire quelque chose avec le voleur, dans l'histoire de la voleur, la Torah va faire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont être contents de ça. Mais la Torah dit normalement, si tu es bien dans ta peau, tu ne seras pas content. C'est quoi? Chaque fois on dit aux jeunes, fais attention, la Goya, touche pas, t'amuses pas avec la Goya, tout ça. Viens ici un esclave, quelqu'un qui a volé. Top, on l'attrape. Il est marié, il a une femme, il a des enfants. Il est vendu comme esclave. Qu'est-ce que la Torah dit cette semaine? Le maître, son maître, il a le droit de prendre une Goya et lui donner et l'obliger de la prendre. Il dit non. Moi j'ai volé, moi je touche pas une Goya, ça n'a rien à voir avec la Goya. Moi la Goya, moi je suis chômeur négia. Il n'est pas chômeur négia de l'argent, mais chômeur négia de la Goya. Toi, tu as droit. Mais il te dit ici, non, tu n'as pas droit de refuser. Il va t'emmener Wahad Goya. Elle est tellement moche, tu la vois de loin, tu as envie de vomir. Mais il te dit, mon ami, je te force, tu la prends. Et tu vas avoir des enfants avec elle. No way! Moi, je ne veux pas des enfants avec elle. Là, je ne veux pas. Non, tu es obligé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Depuis quand la Torah va permettre à quelqu'un de prendre une Goya? Et en plus, l'obliger d'avoir des enfants? Oui, obligé. Obligé. Mais attention, il n'est pas célibataire. Il ne peut pas être célibataire. Il peut être qu'un homme marié. S'il est marié. S'il est célibataire, tu n'as pas le droit de lui donner la Goya. Mais c'est quoi le sens de tout ça? Ça veut dire ça. Depuis quand on donne une Goya à quelqu'un? Mais c'était une Goya empruntée 6 ans. Ça veut dire que tu travailles avec elle 6 ans. À la 6e année, tu lui dis, voilà, on arrête ici. Mais regardez, Rabotai. Elle peut être moche. Elle peut être tout ce que tu veux. Tu as vécu avec cette femme 6 ans. Tu as des enfants avec elle. Tu crois que ça va être facile? À la presse 6 ans, on va te dire, tu sais, cette Goya, tu la laisses. Retourne chez ta femme, la juive. Retouche tes vrais enfants. Retourne. Vous savez qu'est-ce qu'il y en a qui vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non? Non, non, non. Avti d'Adonai, tishtivet banai. Moi, j'aime cette femme aussi. Je m'y suis habitué. Je m'y suis habitué. À cette femme, à ses enfants. Quels enfants? Quels enfants? C'est un goy. Nicolas, Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Georges. Qui tu t'es habitué? Ils sont même pas juifs, ceux-là. Sa mère, la mère n'est pas juive. La femme n'est pas juive. Tu l'as pas convertie, elle n'est pas juive. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Non, Afti, moi je les aime. Mais avant, quand tu l'as vu la première fois, tu voulais courir de l'autre côté. Et on t'a forcé, le bedin t'a pris dans les oreilles. Non, voilà ta punition, tu vas prendre cette goya. Et maintenant, tu dis que tu aimes. C'est ça la force du Yetzer Hara. Il t'habitue à des situations, après tu t'habitues, c'est fini. Qu'est-ce qu'on lui fait avec cet homme? Il dit non, je ne vais pas sortir, ça y est, je suis bien. Je reste. Vous savez qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait un trou dans l'oreille. Comme je vous ai dit, aujourd'hui il y a beaucoup peut-être qui vont être contents. Mais la Torah te dit non! Tu vas rester maintenant esclave, à vie. Maintenant tu es vendu à vie. Mais pour vous dire, regardez comment Sarah il travaille. Au début, tu ne voulais pas. Maintenant, tu veux. Mais c'est quoi le sens de donner un goya à un juif? C'est quoi? Quel est le sens dans ça? C'est quoi le sens de l'affaire? C'est quoi? Hein? Tu ne peux pas la convertir et reste goya. Convertir, qu'est-ce que tu... C'est quoi le sens, justement? La Torah espère qu'à la fin des 6 ans, tu vas sortir, tu vas le laisser. Mais tu crois, tu vas le laisser juste comme ça? Durant 2 mois et 2 mois, tu ne vas pas arrêter de penser sur elle et sur ses enfants que tu as laissés. Et on te dit, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants. Mais comment? J'ai vécu avec elle, j'ai eu des enfants avec elle. C'est pas ta femme, c'est ça. Mais elle était ma femme, oui. Elle était ta femme, on te l'a prise. Tu sais pourquoi on te l'a prise, cette femme et ses enfants? Pourquoi tu as été vendu comme esclave? Pourquoi? Parce que toi, tu as pris quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Tu as pris de l'argent de l'autre. Tu as pris la voiture de l'autre. Tu as volé. Tu n'as pas de respect pour ce que Hachem a donné à quelqu'un d'autre. On veut te donner une bonne leçon. À vie. Qui veut dire que de rien avant, tu ne vas jamais voler. Comment? Tu vas prendre la chose la plus intime. Tu vas t'attacher à une femme. Tu vas t'attacher à des enfants. Et à la fin des 6 ans, on va te dire, c'est plus ta femme, c'est plus tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sors! Sors! Va retourner chez ta femme, cette femme n'est plus à toi. Mais comment je travaille avec cette femme 6 ans? J'ai eu des enfants? Non, c'est pas ça. On te la prend. Maintenant, quand tu vas sortir, tu vas sentir la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu prends à quelqu'un quelque chose? Toi, tu as pris un peu d'argent. Peut-être tu vas se remplacer. Tu as pris une voiture. L'assurance va payer. Tu as pris n'importe quoi qui va être remplaçable. Mais on va te prendre quelque chose qui n'est pas remplaçable. On va te prendre ta femme et tes enfants. Elle n'est pas juive, c'est vrai. Mais tu aurais pu la convertir si tu voulais. Mais on ne te laisse pas la convertir.
Pourquoi?
Pourquoi?
Parce que le même effet de la femme être juive, non?
N'oublie pas. Non. Parce que la Torah ne peut pas lui donner une juive et reprendre la juive. Une fois mariée, c'est mariée. On lui donne une femme dont son statut, selon le judaïsme, n'est pas marié. Ça veut dire que quand tu te maries avec une goya, selon la halakha, tu n'es pas marié. Tu ne donnes pas le guet. Est-ce que tu donnes une guet à la goya? Non. Tu donnes le divorce civil, mais pas le guet.
Est-ce que c'est une knanane?
Comment?
C'est...
Oui, une knanite. Pas une knanite, ça veut dire une goya. Knanite, tu n'as pas le droit de faire vivre. Ça dépend. Oui, tu peux faire une knanite. Tu feras knanite.
Alors là, c'est facile à répondre.
Oui, quoi?
Parce que tu ne peux pas la convertir.
Tu ne peux pas la convertir.
Même oui. Si tu voulais, tu pourrais pas, c'est ça?
On va dire il a trouvé une mexicaine. Je sais pas, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il a trouvé?
Je sais pas,
n'importe lequel.
Je sais pas
compris. Tu as pas compris? Non, tu triches pas, mon ami. Tu triches pas.
Il est marié.
C'est légal. La Torah te dit, tu es obligé d'avoir des enfants. C'est pas trichage, ça.
Il est marié.
Comment il est marié? Justement! Seulement s'il est marié. S'il n'est pas marié, s'il est célibataire, tu ne le donnes pas. Parce que là, c'est sûr que s'il est célibataire, regardez la logique. S'il est célibataire, c'est sa première femme, c'est sûr qu'il ne voudra pas lâcher. C'est quand, s'il est célibataire, il ne voudra pas la lâcher. C'est quand il est marié, et il a l'opportunité de retourner chez sa femme et ses enfants, la Torah espère qu'il va le faire. Mais il y a une chance qu'il ne va pas le faire. Mais c'est 50-50. Tandis que si c'est un célibataire, c'est 100% qu'il ne va pas lâcher cette femme. Comment?
Sa femme?
Sa femme,
c'est sûr.
Ah, quelle est la faute de sa femme? Vous savez quelle est la faute de sa femme? Sa femme, il fallait qu'il lui dise chaque fois qu'il voit mon mari, il ne faut pas le faire entrer à la maison. Comment ça se fait que tu as emmené une nouvelle télévision? D'où tu l'as volé? Canadian Tire? Où tu l'as volé? Walmart et tout ça? Il faut le retourner. Mais sa femme, il dit, ah, c'est beau, j'aime cette télévision. Ah, où tu l'as volé? Ah, je l'ai volé. Ah, Hazaku Baru. Ça veut dire, tu es associé avec ton mari. Alors toi aussi, si tu ne l'as pas fait retourner, alors on lui va lui donner une autre femme. Est-ce que tu vas être contente que ton mari soit avec une autre? Et même pas un juif, elle est moche. Toi, tu es belle, elle est moche. Comment est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vois plus en elle que moi? Non, j'ai pas le choix. Le patron m'oblige. Je suis obligé de le faire.
Et si ça cause un divorce?
Si ça cause un divorce? C'est son problème, aux deux. C'est ça? Mais ça va pas causer un divorce. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ça va pas causer un divorce? Regardez la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Quand quelqu'un achète un esclave, il doit le nourrir, loger, respecter, pas seulement lui. Sa femme et ses enfants. Est-ce que sa femme va lui dire bye bye?
Oui.
Non! Parce qu'elle va perdre sa maison, elle va perdre tout.
Avec un autre homme.
Et notre homme? Si elle trouve. Qui c'est qui va prendre une femme avec beaucoup d'enfants?
Il n'y a pas de logique là. Alors, est-ce qu'elle va acheter un autre homme? Alors, tout ça, c'est arrivé pour rien.
Bon, ça dépend. Est-ce que tu crois que c'est avant les femmes étaient de sa déquête? Alors, il n'allait pas si vite avec un autre homme. Ça, mais, pour vous dire. Ça, tout ça pour vous dire. La manière que la Torah règle les choses est beaucoup différente que les autres nations du monde, ou les autres religions, ou les autres méthodes d'idéologie ou d'école, des autres écoles arrangent les choses. La Torah descend à la source. Quand on prend un pont cassé, on va pas procéder à l'hôpital, juste à côté pour guérir les gens. On va fermer le trou. La Torah dit à un voleur, il faut lui arranger ses traits de caractère. Il faut lui donner la chance. Comment tu donnes la chance? Pas en lui disant, ah mon ami, il faut pas voler. Pas en lui disant, rentre en prison. Pas en lui coupant la main. Tout ça, ça va rien aider. Si ça va aider, ça va aider pour quelques mois. Le gars, il va retourner à faire ce qu'il a fait avant. La seule manière, c'est lui donner une bonne éducation juive. Lui faire b'tshuva. Vous savez qu'aujourd'hui, la police, en Israël, elle admet. La police admet que ceux qui font, le rabbin en Israël, qui font retourner b'tshuva beaucoup de gens, la police ne pourra pas le faire en qui sait en quoi. Un jour, il y a quelqu'un qui rentre dans un bet midrash. Il voit un gars. Qu'est-ce que c'est un monstre? Un monstre, c'est pas un mot. Plus que 6 pieds. Des muscles partout. Il n'y a même pas besoin de s'asseoir. Des muscles partout. À côté d'une gmara. Et juste à côté de lui, un petit gars comme ça. Et ils sont en train de crier. Le petit n'a pas le droit. Il n'a pas peur. Il prie. Non, c'est pas comme ça. Et le grand, il dit. Oh, non, c'est... Alors lui, il était intrigué. Comment un monstre comme ça avec un petit comme ça? Alors il leur dit. Comment vous êtes arrivé à faire Chavruta? Alors le petit dit. Moi, je suis policier de profession. Lui, c'est un voleur. Il était voleur. Moi, je l'ai attrapé plusieurs fois. Jusqu'à la fin de la fête, tu vois, on est devenu Chavruta. Qui c'est qui croyait que ce gars-là, ce genre-là, il aurait fait tchouva? Ce policier-là, il était en fascination, il a fait tchouva aussi. Et maintenant, ils sont devenus Chavruta. S'il aurait laissé voleur, il aurait volé encore. Rien que la tchouva. Un gars qui retrouve tchouva, c'est fini. Il est guéri. Tous ses problèmes sont guéris. Je ne dis pas que tout le monde qui sont tchouva, ils vont pas voler des droits, mais ils vont pas faire de grandes bêtises, c'est ça? Un juif peut glisser, mais il y a toujours le retour. Quand tu glisses, le soir tu te sens mal, c'est ça ton retour. Tu vas essayer de ne plus le faire. Tandis que si tu fais pas tchouva, tu es toujours dans le mauvais chemin. Pour dire que la seule manière, si on veut guérir quelqu'un ou qu'il est dans la drogue, regardez, prenez des gens qui sont dans la drogue, même qu'il y a des centres pour de gens pour qu'ils s'enlèvent de la drogue, tout ça. Il y en a qui ça marche, il y en a qui ça marche pas. Mais il y a une chose pour sûr qui marche, c'est quoi? C'est la Torah. Parce que si tu goûtes la Torah et tu comprends que c'est quoi le trip de la drogue? C'est quoi la drogue? Le gars, il veut chaque jour être en Floride, en Chine, en Japon. Alors il prend la drogue, il commence dans le nuage. Mais si tu apprends la Torah, il y a tellement de beaux choses à apprendre la Torah. Tu es dans le nuage sans prendre la drogue. Tu n'as pas besoin de prendre la drogue. Pourquoi tu veux être dans le nuage? Les gens qui sont dans le nuage, ils cherchent de sauver de la réalité. Ils ne veulent pas travailler dur. Ils veulent, tu sais, s'étendre. Il a des problèmes, alors il faut se sauver de ses problèmes. Quand tu commences à apprendre la Torah, tous tes problèmes sont résolus déjà. Si c'est Parnassa, à quoi je me retrouve, t'envoie la Parnassa. Si c'est problème avec quelqu'un, avec ta femme, à quoi je me retrouve avec ce problème. Rien qu'apprendre la Torah. Comme il dit dans son parasha, Kiani Hashem Rof Echa. Je suis Hashem qui t'envoie la guérison. Qui veut dire, n'importe quel problème que tu as, la solution c'est la Torah. Mais, c'est pas tout le monde qui arrive. Mais, quand tu as quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, n'essaie pas de lui chercher des solutions. Tu sais, c'est interdit de voler. Tu sais, c'est un problème de drogue. La première chose, tu sais, viens prendre des morceaux de Torah. Et le gars, une fois qu'il va rentrer dans la Torah, c'est fini. Tu l'as guéri. La Torah va le guérir. Parce que la Torah rentre dans l'âme. Le problème se trouve dans l'âme. Et la Torah va redescendre aux sources du problème et va le guérir. Alors, Kehani Hashem Rof Echa, je suis Hashem ton guérisseur. La Torah, cette semaine, a choisi un exemple, un voleur. Mais ça peut être n'importe lequel. N'importe lequel. Alors, pour dire que notre rôle, surtout ceux qui étaient dans Israël, ils sont revenus, tout ça, il faut du follow-up. Il faut toujours un suivi. Sans suivi, tout ce que tu as bâti durant 3 semaines tombe à l'eau. Parce que le Tzara est en train de t'attendre. Et il va t'envoyer toutes sortes de choses pour t'enlever ce goût que tu avais en Israël. Il faut faire un suivi. Il faut Torah. La seule chose, c'est toujours Torah. Kavata itim la Torah. Fixe-toi un temps à la Torah. Peut-être en Israël, tu étudiais toute la journée et à 6h du soir, on t'a laissé sortir un peu à Jérusalem, au côté, tout ça. C'est vrai. Ici, tu peux pas le faire. C'est vrai. Mais au moins, fixe-toi un temps à la Torah. 1 heure par jour. Tu peux pas donner à Kadosh Baruch Hu 1 heure par jour. Si quelqu'un vient chez toi, il t'offre une boîte de chocolat, 24 chocolats. Par merci, tu vas pas lui dire donner un chocolat, tu vas dire merci. Est-ce que je peux t'offrir un chocolat? C'est la moindre chose que je peux l'offrir. À Kadosh Baruch Hu nous donne 24 heures de vie. De respiration, de vie, de marcher, de voir, de manger, tout ça. On ne peut pas donner à Kadosh Baruch Hu 1 heure de la journée des 24 heures. 1 heure. 1 heure, c'est tout. À Kadosh Baruch Hu ne demande pas plus. Et ça, c'est Kviyut Etim la Torah. Et vous allez voir, avec cette 1 heure, vous allez accomplir beaucoup, beaucoup. Tous les problèmes d'abord vont disparaître. Tu vas voir des problèmes qui ne sont pas de problème. Parce que quelqu'un qui apprend la Torah, Elecha Ben Chorim, quelqu'un qui est un homme libre, qu'est-ce que c'est un homme libre? Qui se dégage de tous ses problèmes ou. Micho Sek Batorah. Tu apprends la Torah, tous tes problèmes vont disparaître. On va t'achem, qu'on puisse, il faut prier, mais ça il faut prier. Tout le monde dit, ne croyez pas que c'est facile de s'asseoir 1 heure devant une Gemara, devant un Chumash, devant un Tehillim, c'est pas facile, c'est pas donné. Ça il faut prier à Hachem. Chaque matin on dit, Ve'erenenu Betoratecha. On demande à Hachem, ouvre nos yeux dans la Torah. Ve'dabek libenu Be'mitzvotecha. Colle mon cœur vers la Torah, que j'ai cette envie d'étudier et de faire des mitzvot. C'est pas facile, mais il faut prier. Et quand on prie, à quoi je me crois, on prie sincèrement, à quoi je me crois, on va nous donner, et Hashem, qui ani Hashem rofecha, et tous les problèmes vont disparaître, et on sera toujours dans la Torah, mitzvot, ma'asim tovim, amen, qui les rassemble, Hashem.